Dieu est fidèle, Dieu est bon. On a pu proclamer toutes ces choses, on a pu les chanter, on a pu les dire du fond de notre cœur parce que c'est quelque chose qu'on vit. Et voilà, c'est une façon de dire à Dieu, de dire ce que Dieu est pour nous. Et une autre façon de le faire, c'est le témoignage, c'est parler de ce que Dieu fait vraiment dans notre vie.
Je viens d'une famille catholique pratiquante. Je suis la troisième de 5 enfants. Mes parents croyaient en Dieu. On priait avant les repas. Et le soir, avant d'aller dormir, on se mettait à genoux dans la chambre et on priait. Ils nous ont appris à croire en Dieu. J'appréciais beaucoup ces moments à genoux en prière parce qu'on était en famille, on était ensemble. C'est un moment pour moi qui était bien. J'ai vécu une enfance heureuse. En étant paysan, on était souvent dehors. À 10 ans, j'ai fait ma première communion. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'après ma première communion, j'ai eu un rêve qui m'a complètement remuée, complètement bouleversée. C'est un rêve que je ne voulais jamais raconter, mais c'est le début quand même. C'est un rêve qui m'a mis en face de la mort, en face de la réalité. J'étais debout comme ici et à ma gauche, il y avait une personne en robe de première communion et c'était mon double. Et il y avait un immense précipice. Et puis au fond de cet immense précipice, c'était l'enfer, c'était affreux. Et on voulait jeter mon double en enfer. Et ça m'a fait peur et je me suis réveillée. Et ça m'a beaucoup secouée et j'en ai parlé à ma maman. Elle n'a rien répondu, elle n'a rien dit. C'était comme ça, on ne donnait pas nos émotions, on ne disait pas ce qu'on avait sur le cœur. Alors j'ai décidé... Ce que j'ai décidé de plus jamais ouvrir mon cœur. J'étais déjà timide et je ne voulais plus l'ouvrir. Et pas beaucoup après, dans la même période, dans mon village, dans l'église, il est venu un jeune homme. Il était différent, il n'avait pas de soutane, il n'était pas sur la chair. Et il a parlé, et ça m'a touchée ce qu'il a parlé, parce qu'il a parlé de... Vraiment ce qui est vrai, il a parlé de Jésus-Christ, il a parlé de la croix, il a parlé du sang, il a parlé qu'il était mort pour nos péchés, il a tout dit ça, mais ce qui m'a plus touchée, c'est qu'il avait l'assurance, lui, d'être sauvé. Et moi, ça m'a remuée de nouveau, j'étais complètement remuée de tous les sens. Et moi, c'est ça que je voulais. Je croyais en Dieu. Mais c'est ça que je voulais. Je voulais ce qu'il avait et je ne l'avais pas. Je voulais cette assurance qu'il avait et je ne l'avais pas. Et je me suis dit, je fais quoi? Je n'ai pas pu dormir, je n'ai vraiment pas pu dormir. J'avais à peine les jours à dormir et je pensais à l'enfer, je pensais à Jésus, je pensais à tout ça et je pensais, mais comment avoir cette assurance d'être sauvée? Qui peut me le donner? Et j'ai pris une détermination en moi. Ma détermination, elle était très, très forte. Ce n'était pas quelque chose pour faire semblant, ce n'était pas fait quelque chose parce que je devais faire. J'ai pris ma détermination de chercher à tout point l'assurance d'être sauvée. Et j'ai vraiment fait ça. J'allais de plus en plus à l'église. On pouvait y aller tous les jours, mais j'allais de plus en plus pour chercher. Mais c'était en vain. Je cherchais, j'ai pu obtenir des livres religieux. Je les ai piochés, je les ai cherchés, mais en vain. Et j'ai beaucoup prié parce qu'on apprenait les prières, on ne savait pas prier comme ici. Et j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour prier, pour tout, mais en vain. Et malgré tout, Dieu, il était là parce qu'il m'exauçait. J'ai eu des exaucements. Une fois, j'étais malade et ma famille était dans les champs. Et comme j'étais toute seule dans la ferme, le temps a changé. Il s'est mis à avoir des éclairs, il s'est mis à tonner. Puis, c'est pas comme ici, quand il tonne, on n'entend pas grand-chose. Mais quand on est dans une ferme et puis qu'il n'y a rien qui est isolé, et puis que ça fait peur, et puis j'étais toute seule, puis j'avais vraiment, vraiment peur. Et il m'est venu quelque chose. Il m'est venu, mais si je prie le Notre Père, phrase après phrase, ça m'a toujours marqué, en pensant à chaque phrase que je dirais, si je dis ce Notre Père, Dieu va m'entendre. Et j'ai fait ça. J'ai vraiment pris le temps de dire le Notre Père dans cette peur que j'avais. Et quand c'était fini, c'était arrêté net. Il n'y avait plus d'éclairs, il n'y avait plus de tonnerre et le ciel s'est rééclairci. Ça m'a vraiment montré que Dieu m'a entendu et puis que Dieu, il répondait à ma prière. Mais seulement, je n'avais pas l'autre prière, je n'avais pas cette prière. Je voulais toujours cette assurance, je ne l'avais pas cette assurance, je ne savais pas où la trouver. Jusqu'à longtemps, je ne vais pas tout raconter, c'est trop long. J'ai beaucoup fait de choses, j'ai même essayé d'aller voir des missionnaires parce que je me dis, eux, ils savent l'assurance puisqu'ils sont missionnaires en Bolivie, dans notre village, il y en avait deux. Mais ils n'étaient jamais là. Bon, alors... voilà, ça ne m'a rien donné. Il y a eu beaucoup d'autres choses, mais je ne veux pas aller trop loin jusque-là. Je vais venir à mes 18 ans maintenant. Quand j'avais 18 ans, par l'autour, 18 ans et demi, il y a ma sœur qui était mariée, qui avait, avec son mari, ils m'ont dit, mais écoute, tu viendras à la fête, je t'invite à la fête de gym. Et puis, ils sont venus me chercher, parce que j'avais bien sûr pas de moyens de locomotion, c'était 2-3 villages plus loin. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait quelque chose. Ils ont arrangé le coup. Voilà, c'est plutôt ça. J'étais pas au courant, mais eux, ils étaient au courant de quelque chose et pas moi. Et là, ils m'ont mis, ils faisaient de la gym, son frère. Alors, c'était une fête de gym. Après, il y avait la fête, il y avait le souper, il y avait tout. Et à ce moment-là, ils m'ont mis à côté de son frère, le frère de mon beau-frère. Moi, je croyais que le frère de mon beau-frère fréquentait, puis je croyais qu'il ne voulait pas de moi, parce que quand on a fait le mariage de ma sœur, il était là, et puis il m'avait beaucoup plu, j'avais des sentiments pour lui, puis je me dis, oh, il ne veut pas de moi. Puis il était là, et ben voilà, ça a commencé comme ça, mes fréquentations, et ce frère à mon beau-frère, c'est mon mari. Comme je ne sortais jamais, alors c'était facile pour moi. L'année qu'a suivi nos fréquentations, notre maison, notre ferme a été entièrement brûlée. Il ne me restait plus que les vêtements sur moi. Et c'était très dur, très difficile pour nous tous. Surtout pour mon papa qui avait passé déjà deux fois, ça faisait la troisième fois qu'il faisait un incendie. Et c'était des moments très douloureux. Et il y a des gens bien aimables du village qui nous ont laissé leur logement un certain temps. C'était un logement de vacances, alors on a pu aller là un moment. Après, on a pu aller un moment en deux pièces et deux petites pièces en attendant que mes parents ils aient une demeure à eux. Puis une fois qu'ils ont eu leur demeure à eux, j'ai resté 3 mois là. Il y avait encore deux autres qui étaient encore à la maison, un frère et une sœur. Et je suis restée un moment avec eux, puis après on s'est mariés. 3 mois après, on s'est mariés. J'étais contente pour mes parents parce qu'ils avaient quelque chose à eux, parce que je les appréciais beaucoup. J'ai beaucoup appris de ma maman dans la cuisine, dans la couture, dans tout. J'ai beaucoup aimé, j'étais beaucoup avec elle, on a beaucoup fait de choses ensemble. Et à part de témoigner de ce qu'on avait dans le cœur, ça ne se faisait pas. Même elle, ça ne se faisait pas. Ils n'avaient pas appris, j'en veux pas, parce que c'était comme ça. Plus tard, après notre mariage, mon mari il est allé au service militaire à Sion, dans les aviations. Et pendant son service militaire, un soir, il me téléphone. Puis il me dit, hey, chérie, c'est super, j'ai plein de choses à te raconter, tu verras. J'ai acheté une Bible. J'ai dit, bon, c'est bien, ça ne m'a pas fait plus. Je me dis, bon, mais tant mieux, ça y a fait du bien, c'est bien. Et quand il est arrivé à la maison, alors, il en a raconté. Il racontait, mais il m'empêche que je buvais. C'était comme le jeune homme qu'on avait dans notre église. C'était droit, ça, c'est ça que j'attendais. Et je buvais. Mais il en racontait tellement que j'ai dû sortir pour pleurer et dire à Jésus, ne reviens pas, parce qu'il parlait que Jésus revenait bientôt. Puis je me dis, mais s'il revient bientôt, j'ai dit, ne reviens pas, je ne suis pas prête. Et il a vraiment changé. Lui qui lisait aucun livre, il piochait tous les jours. Tous les jours, et il avait plein de choses à raconter. Moi, je me voyais vraiment toute froide. Lui, il était bouillant, il voulait tout remuer, il voulait tout. Puis moi, mais en même temps, je remercie le Seigneur parce que Dieu a utilisé mon mari pour venir au Seigneur. Dieu a utilisé mon mari pour être assurance d'être sauvé. Et vraiment, c'est une grâce de Dieu, c'est un miracle. Et après, on a passé par le baptême d'eau. Pas beaucoup après, parce que lui voulait vraiment obéir tout de suite. Quand j'ai dû passer par le baptême d'eau, une surprise. On ne m'a pas dit qu'il fallait donner un témoignage. Puis moi, j'étais toute contente d'obéir à Dieu. J'étais toute contente de me faire baptiser pour aller plus loin. Et puis j'ai écouté les autres, les témoignages. Puis je me suis dit, je fais quoi, Seigneur? Après tout, il m'est venu. Il m'a dit ce que tu t'as fait du bien dans la Bible ces jours. Mais ce qui est surprenant, c'est que je lisais Job. Alors, j'ai dit, le livre de Job m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a touchée. Puis, j'ai rien dit. Moi, je n'avais pas quoi dire, j'étais timide. Et je n'avais pas l'habitude de parler. Alors, ils n'ont pas eu de témoignage, mais ils étaient sympas parce que je n'ai pas senti de jugement. Et en même temps, ils ont accepté de me baptiser. Alors, j'étais contente pour moi parce que j'ai pu me faire baptiser. Tant pis pour le témoignage. C'est aujourd'hui la première fois que je vous le donne. Un soir, quand on était dans un groupe, un serviteur de France est venu pour nous parler du baptême du Saint-Esprit et la manifestation du parler en langue quand on avait le baptême du Saint-Esprit. Il a parlé, il a expliqué un peu tout. Et puis moi, au fond de mon cœur, je ne sais pas ce qu'il y a toujours, mais ça bouillonne et je voudrais toujours plus. Je suis peut-être un peu spéciale, j'en sais rien. Mais je disais, mais Seigneur Jésus, mais je voudrais ce baptême du Saint-Esprit. Fait qu'il vienne m'imposer les mains pour que j'aie ce baptême du Saint-Esprit. Et puis c'est comme s'il avait entendu fort. À peine fini de prier, il vient vers moi, puis il m'impose les mains. Puis il avait encore prié pour personne. Et c'est comme si j'avais parlé fort, puis c'était dans mon cœur. Il a prié pour moi. Et je n'osais pas ouvrir la bouche, je disais très doucement. À peine avoir fini de prier pour moi, je me suis taillée pour pouvoir parler en langue librement sans personne autour de moi. J'arrivais plus à m'arrêter. Je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue. J'arrivais plus à m'arrêter. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour moi. Et je voudrais encore vous parler parce que dans ma vie, Dieu m'a fait la grâce d'avoir beaucoup des rêves. Dieu m'a fait la grâce d'avoir beaucoup des images. J'en ai eu aussi en étant jeune, beaucoup d'images. Et je voudrais quand même vous en partager un, parce que c'est un rêve qui est, pour moi, ça peut concerner tout le monde. J'entends c'est pour tout le monde, parce que c'est un psaume qui est béni. Un rêve parmi d'autres. J'étais au rez-de-chaussée, tout au fond des escaliers où on habite. Ça fait longtemps que je l'ai eu, ce rêve. Et tout en haut, je voyais le haut. Il y avait un immense parapluie, il y avait un parapluie blanc, et dedans ce parapluie blanc, il y avait le psaume 91 écrit en entier tout autour. Et pendant ce rêve-là, il y a quelqu'un qui est en train de le lire tout le long, dans le rêve. Tout le long, il a dit le psaume 91, et je savais qui c'était. C'est une personne que je connaissais très peu. Et cette personne, elle disait, je l'ai de la part de Dieu. Et pas beaucoup après, de temps, on est allé au Orvin écouter un serviteur. Il a donné son message, je ne sais même plus quoi. Et quand il a eu terminé, son épouse s'est levée, elle a pris la Bible, elle a ouvert la Bible. Elle a dit, de la part de l'Éternel, j'ai le psaume 91 qu'une personne qui est ici dedans l'a reçu. Et elle l'a lu en entier. Et ça m'a tellement touchée que j'ai acheté un parapluie blanc que j'ai écrit le psaume 91. Et je pense que ce psaume, je dois le partager parce que c'est pas seulement pour moi, c'est pour tous. Parce qu'on a tous besoin d'être sous l'abri du Très-Haut. On a tous besoin de son amour. On a tous besoin d'être tous aimés. Je crois que c'est pas que pour moi. Je l'ai dit parce que je sentais qu'il fallait que tout le monde l'ait, qu'on soit tous sous ce parapluie, qu'on soit tous bénis de l'onction de Dieu, qu'on soit tous remplis de lui, parce qu'il nous aime tous, tous, tous. Et je remercie en tout cas tous ceux qui ont prié pour moi, que je puisse parler aujourd'hui, parce que pourquoi aussi j'ai parlé aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est pas toujours facile, j'ai pris une grande décision, j'ai dit, Seigneur, maintenant je ne ferme plus ma bouche, si j'ai quelque chose, je veux le dire. Bien sûr, des fois, je ne sais pas si je le dis au bon moment, tant pis, que le Seigneur me donne la sagesse. Et depuis ce jour-là que j'ai dit ça, eh ben, 2-3 jours après, on demande qui c'est qui n'a jamais dans le conseil de donner son témoignage. Puis, comme j'ai décidé d'ouvrir ma bouche, j'ai dit moi. Et c'était vraiment tout de suite, c'était pris au fait. Et quand on m'a demandé de le donner aujourd'hui, j'ai dit non, j'ai décidé d'ouvrir ma bouche et c'est pour ça que j'ai fait aujourd'hui. Mais le Seigneur, il m'a soutenue parce que je n'aurais pas pu le faire. Et j'ai osé prendre le parapluie que j'ai fait. Je ne sais pas si vous voulez que je lise le psaume 91 avant de terminer.
C'est vraiment de l'Éternel parce qu'elle est partie, elle n'a fait aucune rature, et à la fin, il n'y a plus de place. Vive la main de l'Éternel.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci Seigneur.
Ouais, bah, tu peux recommencer quand tu veux. Monique a découvert qu'elle a quelque chose à nous partager, puis elle aura d'autres choses encore à nous partager, j'en suis convaincu. Ouais, c'est un cheminement que le Seigneur nous fait faire. Il y a des temps, il y a un temps pour tout. Et parfois, on a l'impression que ça va long, mais oui, il y a un temps pour ouvrir notre bouche, il y a un temps pour parler. Et quand c'est le temps, ben, il se passe des choses. Et j'aime énormément ce psaume 91, comme tu l'as apporté, parce que je crois qu'il nous parle vraiment à chacun. Est-ce que je suis sous ce parapluie? Est-ce que j'y suis? Est-ce que j'y vis là-dessous? Est-ce que j'aimerais? Et puis que finalement, je réalise que je ne passe pas sous ce parapluie. J'aimerais qu'on puisse peut-être prendre avec l'équipe de louanges un chant. Peut-être que vous avez quelque chose d'inspiré qui va dans ce sens-là. Mais ce que j'aimerais vous proposer, c'est que Monique, tu viennes avec ton parapluie. Et puis, tu viens nous l'ouvrir ici devant. Et puis, les personnes qui, pendant le prochain chant, disent, mais moi, j'ai besoin de me placer sous cette protection, de me placer sous l'autorité du sang de Jésus. Vous passez simplement sous ce parapluie. Vous venez simplement, c'est une sorte d'acte de foi de dire, voilà, Seigneur, moi je veux le faire. Moi je veux aller plus loin avec toi. Je veux profiter de tout ce que tu as fait pour moi. Je veux vraiment que tu sois ce parapluie, cette protection, ce Dieu merveilleux qui me garde, qui me protège. Donc, soyez vraiment libre de le faire, de dire, ben moi, je renouvelle mon engagement, ou simplement, moi, je veux le faire. Mais soyez libre de passer pendant ce temps, et puis, tout simplement, quoi, passer sous ce parapluie, et puis en profiter. C'est simplement un signe, il n'y a rien de particulier, de magique là-dedans, mais c'est un signe, c'est un engagement que je prends ce matin. Et comme le témoignage, j'appelle d'autres témoignages, il y aura encore deux personnes qui vont partager quelque chose après. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni les fléaux qui frappent au plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.